Merci d'écouter RFI, 11h30 en temps universel. Il est 13h30 ici à Paris.
RFI Midi, Anne Cantner.
Et dans une demi-heure, ce sera votre journal, Paul Lonsin-Spinelli. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Ça n'était pas le rendez-vous annoncé entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, mais l'Ukraine et la Russie discutent.
Oui, des délégations des deux pays se rencontrent en ce moment à Istanbul, sans leurs présidents respectifs. Donc, première négociation directe depuis le printemps 2022, juste après le début de la guerre. La Turquie demande qu'un cessez-le-feu soit mis en œuvre dès que possible. Très actif justement sur la question ukrainienne, Donald Trump avait choisi le golfe Persique comme destination pour sa première tournée diplomatique depuis son retour au pouvoir, le président américain qui a quitté Abu Dhabi ce matin au terme d'un voyage très porté sur les affaires. Et puis la France porte plainte contre l'Iran devant la Cour internationale de justice. Les deux derniers ressortissants français emprisonnés par Téhéran, Cécile Kohler et Jacques Paris, ne peuvent pas recevoir de visite consulaire, dénonce Paris.
A tout à l'heure, on vous retrouve dans un peu moins d'une demi-heure.
RFI, l'Europe à midi.
Les négociations ne se déroulent donc pas dans la configuration attendue, espérée par l'Ukraine. Mais pour la première fois depuis 3 ans, des représentants ukrainiens et russes se trouvent dans la même pièce en Turquie. C'est un symbole, mais il est peu probable que le rendez-vous permette de faire avancer quoi que ce soit tant les positions restent éloignées. La priorité de l'Ukraine reste d'obtenir un cessez-le-feu. C'est aussi ce que dit la Turquie, pays qui accueille donc ces négociations. Et Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui demande que le massacre cesse avant des pourparlers. Kiev veut croire qu'une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine est possible. Le président russe a fait une énorme erreur en envoyant à Istanbul une équipe de second rang. C'est ce que dit le patron de l'OTAN ce matin. La chef de la diplomatie européenne, elle, assure qu'elle va accroître la pression sur Moscou. Les déclarations se ressemblent et sur le terrain, la guerre se poursuit avec, dans chaque camp, des participations étrangères. Des milliers de personnes combattent aux côtés de l'armée ukrainienne, par exemple, originaire d'une cinquantaine de pays et notamment d'Asie. Bonjour Yelena Tomic.
Bonjour Anne.
Nous allons entendre des témoignages exclusifs de 2 Taïwanais et d'un Hongkongais qui ont été contactés par Hermine Roumiliak de la rédaction chinoise de RFI. Quels sont leurs profils et leurs motivations?
Ils s'appellent Pan, Jack et Edwin. Ils ont respectivement 26, 25 et 50 ans. Tous les trois se sont engagés en soutien à un pays agressé par son voisin puissant et autoritaire et en écho à leur propre situation, Anne. La crainte d'une invasion chinoise de Taïwan ou la lutte contre l'oppression de la Chine depuis que Pékin a imposé la loi sur la sécurité nationale à Hong Kong. Pour Pan, un vétéran des marines taïwanais qui s'est rendu en Ukraine à 3 reprises et qui a vu mourir son ami sur le front, l'engagement vise à acquérir une expérience au combat.
L'expérience nous sera bénéfique pour défendre notre île et transmettre ce que nous avons appris à l'armée taïwanaise. Nous voulons transmettre à notre armée et à nos concitoyens ce que cela signifie de se battre pour de vrai. La guerre, c'est quelque chose d'effroyable. Cette horreur ne peut pas s'apprendre dans les films ou les jeux vidéo. C'est brutal et on espère que cela n'arrivera pas entre les deux rives du détroit de Taïwan. Notre île est petite, nous n'avons pas de refuge. Si une guerre éclate, ce seront les gens ordinaires qui en paieront le prix et qui en souffriront.
Jack Yao, lui, s'est engagé dès 2022 dans la Légion géorgienne à la suite de l'appel international lancé par le président Zelensky dès le début du conflit. Se disant incompétent au combat et incapable de tuer, Jack s'occupe principalement de logistique, médecine et transport.
Les raisons qui nous ont poussés à nous engager sont en lien avec une éventuelle invasion de la Chine. On s'interroge sur l'aide américaine et s'ils enverront des soldats ou pas. Pourquoi ces pères, fils ou maris américains iraient combattre sur une petite île en Asie? Beaucoup de gens n'ont jamais entendu parler de l'Ukraine avant. Autrement dit, si vous voulez que les autres se sacrifient pour vous, vous devez faire le premier pas.
Et puis la rédaction en chinois de RFI a aussi recueilli le témoignage d'un Hongkongais. Des volontaires hongkongais sont rares, hein, Yelena.
En effet, Edwin est originaire de Hong Kong. Il a servi dans la marine royale britannique. C'est un militaire professionnel. Il a quitté son île natale après la répression des mouvements pro-démocratie en 2019 pour se rendre en Grande-Bretagne. Il est aujourd'hui officier de la marine ukrainienne.
Les Ukrainiens ont soutenu le mouvement des parapluies en 2014 et notre mouvement pro-démocratie en 2019. Je suis le seul Hongkongais ici. Je suis déçu et je me sens très seul. Je n'ai jamais rejoint la Légion internationale parce que j'étais soldat de la Royal Navy dès l'âge de 18 ans. Quand je suis arrivé, j'ai signé pour 3 ans dans la marine ukrainienne. J'ai été blessé à la tête, au visage, aux oreilles, aux jambes, à la taille. Mais cela ne m'a pas empêché de repartir en mission. Mon travail consiste à aller en territoire russe pour du repérage et pour faire un rapport à mon retour. Quand les Ukrainiens me demandent pourquoi je suis venu les aider, je leur réponds « parce que les Ukrainiens nous ont aidés ». Il était de mon devoir de venir les aider à mon tour.
Selon Pan, notre premier interlocuteur qui va publier en juillet à Taïwan un livre sur son expérience sur le front ukrainien, un tiers des 23 à 25 000 volontaires étrangers mobilisés en Ukraine ont été tués au combat. Après l'interview, Jack, employé dans le commerce à Taipei, est reparti avec Edwin, l'officier hongkongais sur le front de la mer Noire, dans le sud de l'Ukraine. Tous ces volontaires, Anne, ont été accueillis via une association qui a servi de point de contact. L'association a été fondée par un Allemand d'origine chinoise, un ancien policier qui gère la logistique et le transfert en Ukraine des engagés d'origine chinoise et asiatique.
Yelena Tomic et Armin Roumiliak de la rédaction en chinois de RFI qui a recueilli ces témoignages.
RFI, l'Europe à midi.
Dimanche, on votera en Roumanie pour le second tour de la présidentielle et le candidat populiste d'extrême droite est donné favori. On en reparlera avec notre invité dans 3 quarts d'heure. On parlera notamment de son étonnante campagne électorale à l'étranger auprès de la diaspora plutôt que dans son pays. Et puis des élections se tiendront aussi dimanche en Pologne, là pour le premier tour de la présidentielle, avec certains enjeux semblables à ceux qui ont cours en Roumanie. Un choix entre 2 profils très différents. Les favoris des sondages en Pologne sont d'un côté le libéral et europhile Rafał Trzaskowski et de l'autre, le nationaliste Karol Nawrocki. Nos Européens de la semaine que vous nous présentez, Julien Chavannes.
Oui.
On va commencer par celui qui est en tête des intentions de vote.
Rafał Trzaskowski est le candidat de la coalition civique du Premier ministre Donald Tusk. Il est à plus de 30% dans les enquêtes d'opinion, 53 ans, télégénique, une légère barbe poivre-sel. Il est le maire de Varsovie depuis 6 ans.
Jak jest pana i pani wspólny ulubiony serial?
Ostatnio oglądaliśmy...
Très actif sur les réseaux sociaux, vous l'entendez répondre là à une question sur Instagram sur les séries qu'il regarde avec son épouse.
Et quel est son parcours?
Il a étudié au Royaume-Uni, à Paris, il a été député européen, europhile, convaincu, avec des convictions sociétales très ouvertes sur les questions LGBT, mais il les a mis en sourdine pendant cette campagne. Bartosz Wieliński est rédacteur en chef au grand journal Gazeta Wyborcza.
Il a un peu caché ses sentiments vers ces groupes de gauche. Pour gagner des élections en Pologne, il faut aussi convaincre des forces conservatrices qui dominent la campagne polonaise.
Il a d'ailleurs multiplié les déplacements dans les villages ruraux pour convaincre de nouveaux électeurs. Les voix progressistes, elles, continueront de voter pour lui, faute d'alternative.
Et quel est son style?
Son expérience à la mairie de Varsovie l'a rendu très accessible, selon Christophe Solok, spécialiste de la Pologne à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
Il est plutôt discret, mais qui n'hésite pas à venir vers les gens et n'hésite pas à répondre aux questions, aux interrogations des gens. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment très accessible et à ses côtés un peu populaire.
Il vient d'une famille d'intellectuels de Varsovie. Sa femme est l'un de ses atouts. Il la met souvent en scène dans ses vidéos. Rafał Trzaskowski parle 5 langues, dont le français. Ses opposants l'ont attaqué là-dessus jusqu'à le surnommer « Bonjour », mais le candidat lui-même en a ri.
On va passer maintenant à son principal rival, Karol Nawrocki, qui est quasiment son opposé.
C'est le candidat du PiS, le parti d'opposition Droit et Justice. Son slogan de campagne « La Pologne d'abord, les Polonais d'abord ». Dans cette vidéo de campagne, il accuse son adversaire de corruption. Cet historien de 42 ans était un inconnu sur la scène politique. Il est donc très entouré par les cadres du parti. Fan de Donald Trump, il l'a rencontré début mai à la Maison Blanche et il aimerait bien lui ressembler, comme le note le chercheur Christophe Solok.
Est-ce qu'il y a vraiment une carrure de Trump? Je ne crois pas. Est-ce qu'il partage les idées de Trump? Oui, sans doute. Il est extrêmement réticent finalement à la fédéralisation de l'Union européenne. Donc, il défend une Europe des nations, donc la souveraineté, le mot-clé aussi pour Trump. Il y a vraiment point de similitude entre Nawrocki et Trump.
Ses livres, ses enquêtes sur les crimes du régime communiste lui ont valu d'être sur la liste des personnes recherchées par la Russie. 42 ans, costume et coiffure classique, marié, père de 3 enfants, c'est un passionné de boxe. Mais pour Christophe Solok, il a un problème de proximité et d'authenticité.
Il essaye, de montrer un peu son côté très accessible, quelqu'un qui aime bien aussi le foot, enfin qui aime bien des promenades en famille. Bon, mais c'est un candidat qui, pour beaucoup de Polonais, il reste très mystérieux.
Sans compter qu'il traîne aussi plusieurs casseroles.
Oui, Karol Nawrocki a été éclaboussé pendant cette campagne par un scandale concernant ses appartements. On a découvert qu'il avait acheté à un très bas prix un logement auprès d'un homme âgé. Des révélations qui vont peser au moment du vote, raconte le journaliste polonais Bartosz Welinski.
Tout ce qu'il fait maintenant, c'est de cacher ce scandale, de trouver quelque chose différent qui pouvait être apprécié par les médias plus que cet scandale de ne plus répéter. Mais ça marche pas.
Karol Nawrocki a déjà perdu des points dans les sondages.
Et puis un troisième homme aimerait bien s'inviter dans ce duel, Sławomir Mentzen, candidat de l'extrême droite.
Homme d'affaires, millionnaire, anti-migrant, anti-avortement, eurosceptique. Mais à force d'outrance, il a dégringolé dans les sondages. Il n'est plus sûr d'être le faiseur de roi. Dimanche, les Polonais voteront d'abord contre un candidat que par adhésion, selon ce que m'ont dit mes interlocuteurs. Ce qu'il faudra surveiller, c'est aussi le vote des 500 000 Polonais vivant à l'étranger. Enfin, principal inconnu, ce que décideront les 10% d'indécis.
Julien Chavanne pour nos Européens de la semaine.
RFI Midi, Anne Contner.
Ce dimanche sera aussi un jour d'élection législative au Portugal et le leader de l'extrême droite ne participera pas au dernier jour de campagne, nous apprend Diario de Noticias. Le chef du parti Chega, crédité de 18 à 20% des voix, a fait 2 malaises en quelques jours. Il peut compter sur le soutien de l'extrême droite bolsonariste au Brésil qui, elle, se mobilise sur les réseaux sociaux. Et puis, les idées de Chega ont largement infusé déjà la campagne. Ça, c'est le journal Les Échos qui l'écrit, expliquant que même si le Premier ministre exclut toute alliance parlementaire avec l'extrême droite, il a néanmoins discrètement absorbé ses préoccupations en faisant notamment grande publicité de l'expulsion de 14 000 personnes en situation irrégulière. La presse belge nous apprend que plus de 113 000 personnes pourraient perdre leurs droits aux allocations chômage l'année prochaine. Plus que les 100 000 initialement estimés, le gouvernement fédéral a décidé de limiter à 2 ans maximum les allocations. Et puis The Guardian publie un éditorial sur ce que le journal appelle un retour au monde de Balzac. Le pouvoir de la richesse héritée et non gagnée dans la France de 2025 reproduit les injustices sociales que l'on retrouve dans les chroniques d'ambition et de désespoir de cet auteur français du 19e siècle. Le problème est tristement familier dans toute l'Europe, ajoute le quotidien britannique. La même observation pourrait être faite pour le Royaume-Uni, l'Allemagne ou l'Italie. Depuis les années 80, des changements fiscaux régressifs ont permis aux riches de conserver une plus grande partie de leur argent et de le transmettre à leurs fils et filles. Dans les économies avancées, le montant de la richesse héritée a plus ou moins doublé en proportion du PIB par rapport au milieu du siècle dernier.
RFI, l'Europe à midi.
On va parler maintenant de la Serbie. Nous avions mentionné ici à plusieurs reprises les manifestations étudiantes qui durent depuis des mois contre la corruption du pouvoir. Alors, nous ne sommes pas en ligne avec un journaliste serbe, tout simplement parce que l'enquête que nous allons évoquer a valu à ses auteurs trop de pression pour qu'ils osent la publier. C'est l'organisation Forbidden Stories qui a pris la suite. Bonjour Alexander Abdelila.
Bonjour.
Vous avez donc travaillé avec des membres du journal local Phare sur des pratiques en cours dans une petite ville située à 300 km de Belgrade, à Dimitrovgrad, où les pratiques du maire sont plus que douteuses.
Oui, exactement. En fait, on s'est intéressé à cette histoire après avoir lu un rapport d'Amnesty International qui révélait en décembre dernier que le portable d'un de ces journalistes locaux serbes avait été hacké et Amnesty l'attribuait en fait ce hacking au service de renseignement. Donc là, on s'est dit, bon, c'est quand même une histoire étonnante. Nous qui surveillons justement toutes ces histoires de liberté de la presse et de journalistes menacés. Et donc, on les a joints et ils nous ont assez vite expliqué que selon eux, c'était une pression exercée sur eux pour qu'ils arrêtent de travailler sur les pratiques du maire. Donc là, en l'occurrence, l'enquête sur laquelle ils travaillaient et qu'ils ont dû interrompre, c'était les liens qui existent entre ce maire d'une petite ville, hein, on parle de 8000 habitants, vraiment collés à la frontière bulgare, et une clinique privée dans laquelle le maire exerce aussi comme radiologue. Et c'est là-dessus que se sont penchés. Et pour eux, il n'y a aucun doute, c'est vraiment cette enquête et plus largement leurs enquêtes sur les pratiques du maire, sa gestion de l'argent public, qui leur a valu ce hacking assez inédit pour un journaliste local quoi, dans le pays.
Et il y a cette clinique, les journalistes se sont aussi rendus compte qu'en fait, tout l'entourage du maire bénéficiait d'un système très opaque.
Oui, alors ce dont on s'est rendu compte avec eux, c'est que finalement, la clé de toutes ces sociétés, ces individus qui gravitaient autour du maire et de cette clinique, c'était en fait un couple d'entrepreneurs. Donc pour vous donner une idée, le mari dans ce couple détient le bâtiment de la clinique et détient aussi les équipements de la clinique avec, aux côtés de la belle-sœur du maire. Et dans ce couple toujours, l'épouse, elle, détient la moitié d'une entreprise de construction publique qui rafle énormément en fait de chantiers publics dans la ville dirigée par le maire. Donc c'est ce cercle sur lequel on a travaillé, qu'on a documenté. On a mis un graphique qui résume un peu tous les liens. Et c'est évidemment le risque en fait de conflit d'intérêts vu la configuration est très important. Quoi.
Donc il y a des marchés publics qui sont attribués de manière très peu transparente pour des travaux, alors que d'autres rénovations ne sont pas menées à terme. Vous citez par exemple une bordure de trottoir. Ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est très révélateur du décalage que vous documentez et qui existe à Dimitrovgrad.
Oui, tout à fait. Alors là, effectivement, on va plonger dans vraiment le détail du détail. Mais pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'en fait, là, ce qui se passe à Dimitrovgrad, c'est vraiment une reproduction, on va dire miniature, de ce qui se passe dans tout le pays, en Serbie, et qui a poussé les Serbes à descendre dans la rue en masse. Et ça a donné un des mouvements anticorruption les plus grands que le pays ait connu. C'est pour ça qu'on trouvait ça vraiment intéressant. Et là, le trottoir que vous évoquiez, oui, ça peut paraître anecdotique, mais c'est en fait un marché public remporté par cette entreprise de BTP, donc dirigée par l'épouse là, du fameux couple que je mentionnais tout à l'heure. Et donc, ils ont en fait pas remplacé la bordure du trottoir, alors que c'était dans les exigences du chantier à l'origine. Et donc, ils ont facturé 0 euro et en faisant ça, ils ont pu avoir une offre plus basse que le concurrent. Et on a parlé au concurrent qui, lui, a découvert en fait cette entourloupe en regardant les documents avec nous et qui était très en colère et qui dit « voilà, ça c'est typiquement ce qui se passe ici », c'est-à-dire qu'il y a, selon lui, hein, on n'a pas pu le prouver, le maire ni ça, mais il dit « voilà, il y a probablement eu une entente entre le maire, cette entreprise, pour leur dire « ok, faites pas les bordures du trottoir, votre offre sera inférieure et vous pourrez remporter le marché ». Et c'est ça en fait qui met les gens en colère, les Serbes en colère, et qui a valu à ces journalistes ce type d'enquête-là, hein, qui peut paraître très local, mais qui en fait est très sensible, a valu cette mise sur écoute ou ce hacking.
Dépression donc et un hacking. L'un des journalistes notamment a été observé grâce au logiciel NoviSpy qui avait été installé sur son téléphone pendant que lui se trouvait au commissariat après avoir été interpellé. Qu'est-ce que c'est ce logiciel ?
Alors, ce logiciel, c'est donc Amnesty International ouais, qui l'a analysé, qui a regardé les données, le code. Donc, c'est un logiciel, ce qu'on m'a expliqué, un expert qui est en fait assez basique, qui n'est pas aussi élaboré que d'autres choses comme Pegasus, dont on a pu parler par le passé à Forbidden, mais qui permet d'aspirer dans le téléphone de la cible les échanges cryptés, les photos, les échanges avec même des applications comme Signal, Telegram et autres. Et c'est ça en fait qui a fait notamment que des sources du journaliste en question ont complètement arrêté de lui parler en fait après cette révélation parce que d'un coup il n'y avait plus moyen de leur parler de manière sécurisée, de manière confidentielle. Et c'est pour ça que là, cette enquête qui peut paraître assez locale, on est complètement dans le mandat en fait de Forbidden Story. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on poursuit les enquêtes de journalistes qui soient assassinés ou menacés à travers le monde. Et Phare, ce média local, n'aurait pas pu publier les informations qu'on sort avec eux s'ils avaient été seuls, en fait. Ça n'aurait pas été possible, il y aurait eu trop de pression.
Merci Alexander Abdelila d'avoir été en ligne avec nous pour parler donc de ce travail qui n'a pas été publié, en effet, à cause des pressions. Votre travail est en ligne sur le site de Forbidden Stories. Merci.
Je vous remercie.
Bonjour Dominique Dezonnet.
Bonjour Anne.
On va parler avec vous d'une innovation lancée par le journal français Le Monde. Un nouveau robot conversationnel, il est piloté par intelligence artificielle. L'idée, c'est que les abonnés du site web ou ceux qui utilisent l'appli pourraient rechercher et obtenir des réponses liées à l'actualité issues des articles du journal.
Oui, cette nouvelle fonctionnalité IA s'appuie en fait sur le modèle de langage qui a été développé par l'entreprise américaine Perplexity, avec laquelle bien sûr le groupe a signé un accord d'accord. La jeune pousse créée en 2022 propose au journal de mettre à disposition son moteur de recherche augmenté, que l'on désigne désormais par le terme de moteur de réponse. Le quotidien avait déjà signé un accord l'an passé avec OpenAI, la maison mère qui a créé ChatGPT. L'annonce du partenariat avait à l'époque provoqué des grincements de dents chez certains patrons de la presse française. Ils estimaient que Le Monde faisait ainsi cavalier seul dans ses négociations au détriment d'une solution collective qui aurait permis de contraindre les géants de l'IA de ne plus piller les contenus des grands médias pour entraîner leurs programmes. Notre objectif est de s'adapter aux nouveaux usages de nos lecteurs, expliquait alors Louis Dreyfus, le président du directoire du groupe Le Monde, à nos confrères de Radio France.
C'est important pour Le Monde qu'un acteur majeur d'intelligence artificielle reconnaisse la valeur des contenus. Pour nous, ça fonctionne comme un teaser, c'est-à-dire une incitation à l'abonnement. Quand les utilisateurs cliquent sur ce lien qui met en avant Le Monde, nous avons un taux de conversion donc vers l'abonnement qui est supérieur à ce que nous apportent des moteurs de recherche plus classiques.
En revanche, aucun média au monde n'est à l'abri des hallucinations numériques dont font preuve ces moteurs de réponse par IA.
Oui, le groupe média britannique de la BBC a été d'ailleurs l'une des premières victimes de ces hallucinations, obligeant la firme Apple à modifier son moteur de recherche par IA. Le programme générait des informations inexactes en se basant pourtant sur les articles du site de la BBC, mais l'amélioration de ces programmes ne changerait rien au problème de fond. La fiabilité de l'information délivrée par des générateurs de texte que sont ces programmes IA est une chimère, se désole Vincent Berthier, responsable du bureau technologique et journalisme de Reporters sans frontières.
Le problème de fond, c'est le fonctionnement des modèles de langage qui doivent être considérés comme expérimentaux. Ils ne peuvent pas produire dans 100% des cas de l'information fiable. Il est extrêmement important que les médias, les journalistes, la société dans son ensemble posent très clairement des limites. L'intérêt d'une fonctionnalité qui peut produire des fausses informations, cet intérêt n'existe pas.
Et concrètement, comment est-ce que ça fonctionne en termes d'affichage, de mise en page?
Eh bien, le système apparaît juste en dessous de la barre classique qui était jusqu'à présent réservée à la recherche des articles du quotidien. Par ailleurs, le partenariat prévoit une rétribution aux journalistes des revenus générés par l'IA de Perplexity, un accord qui serait donc gagnant-gagnant, affirment les deux parties dans leur communiqué, à la condition toutefois que l'entreprise américaine affiche les liens vers les articles du journal et respecte évidemment le principe des droits d'auteur en vigueur dans les pays de l'UE.
Dominique de Sonnet. Notre rencontre avec une personnalité du monde de la culture, toujours à Cannes pendant la durée du festival, pour parler aujourd'hui du film Sirat, une aventure tragique de personnages atypiques, marginaux, en plein désert. Son réalisateur Oliver Lax est au micro d'Isabelle Chenu.
Bonjour Oliver Lax.
Bonjour.
C'est une aventure extrême, radicale, je dirais presque une errance dans laquelle vous nous embarquez avec Sirat. L'introduction du film, c'est une rave party qui se déroule quelque part dans le désert au Maroc et au milieu de la transe, de la poussière, dans ce campement saturé de sons, vont surgir un père et son petit garçon. Ils sont à la recherche de leurs filles et sœurs. Vous faites se rencontrer deux mondes.
Une aventure humaine, une aventure où les êtres humains ne se jugent pas, où les êtres humains connectent avec leurs fractures, avec leurs blessures.
Alors Sirat, le titre du film, dit beaucoup, à condition de savoir de quoi il s'agit. C'est un mot qui, dans l'islam, signifie un pont entre l'enfer et le paradis, un pont que vos personnages vont franchir d'une certaine manière. Qu'est-ce qui leur arrive ?
Il leur arrive que, voilà, que la vie va leur offrir de manière atroce l'opportunité de grandir, l'opportunité de regarder à l'intérieur.
On peut voir dans votre film, on est presque obligé d'y voir un peu une référence, en tout cas dans l'image, à Mad Max, parce qu'il y a ces deux gros camions qui sont des campements roulants dans lesquels vivent cette petite communauté de marginaux et à laquelle va s'agréger ce père et ce petit garçon.
Oui, Mad Max et beaucoup de cinéma populaire qui me plaît étaient bien évidemment entre nos référents. Pas seulement comme film, sino surtout comme archétype universel. Comme les personnages de ce film disent, ça fait longtemps que c'est la fin du monde.
Es mi hija. Hace cinco meses que no sabemos nada de ella. Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
C'est Sergi Lopez, l'acteur Sergi Lopez, qui joue le rôle de ce père qui va embarquer son petit garçon dans cette aventure avec ses rêveurs. Vous avez travaillé avec donc acteurs professionnels et non professionnels. Est-ce que ça donne aussi un ton particulier au film ?
C'est un mélange stimulant, je trouve. Même si Sergi Lopez est un acteur qui n'est pas un acteur. C'est quelqu'un de très connecté à lui-même. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'ego, qui habite l'image. Et c'était important. C'était important ça, pour le mettre à côté d'acteurs sans expérience.
Sirat, Oliver Lacks, est-ce que c'est un film qui est quand même empreint de spiritualité ?
En fait, tous les récits d'aventure, tous les récits de chevalerie, le cycle arthurique, la quête du Graal, enfin, tous les récits universels sont un western, un film de genre et en même temps une quête métaphysique.
Il y a beaucoup de surprises dans ce film. Le spectateur est cueilli, raflé, on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer. Toutes les demi-heures, il y a quelque chose de nouveau qui nous emmène ailleurs, en fait.
Tous mes films sont comme ça. Ce film est un documentaire, un drame, un road movie, un survival, un film d'aventure, un film de terreur, une prière. Il y a un mélange de genres qui m'habite. J'adore écouter le Coran, c'est quelque chose qui me soigne. Et en même temps, j'aime beaucoup la techno, la musique électronique. J'ai un pied dans la tradition, je suis en même temps un être humain contemporain. Et on fait ce qu'on peut, les êtres humains. Et voilà, j'ai voulu un peu représenter ça dans le film.
Merci beaucoup, Oliver Lacks.
Merci à vous.
Donnez la fiesta.
Oliver Lacks, réalisateur du film Sirat, au micro d'Isabelle Chenu. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux à Cannes dans le prochain journal, dans un peu plus d'un quart d'heure. Et puis à midi et demi, temps universel, l'actualité africaine. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Cantner.
Avec à la une aujourd'hui.
Le président déchu Ali Bongo, sa femme Sylvia et son fils Noureddine ont quitté le Gabon. Ils sont arrivés cette nuit en Angola. Sylvia et Noureddine, emprisonnés depuis le coup d'État et inculpés de détournement de fonds publics, n'en sont pas quittes avec la justice, affirme le procureur de Libreville, qui parle d'une liberté provisoire dans l'attente de leur procès. Et puis au Tchad, l'ancien premier ministre Succès Massra, arrêté ce matin à N'Djamena, le procureur évoque des appels à la haine que le président du parti Les Transformateurs aurait lancé.
À tout à l'heure, Nicolas Sûr. Pour l'heure, on va écouter un peu de musique.
Ok, c'est pas à dire. La mancha. Yes.
La mancha pour un nouveau projet avec le rappeur belgo-congolais Badi. Ce projet s'appelle RAS et il est à découvrir en ce moment dans la playlist RFI.
Ça joue les aveugles dans la presse. RAS, 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 RAS. Ouais, on m'a la mer en pleine détresse. Ça joue les aveugles dans la presse. RAS, 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 RAS. Comment pourrais-je être raciste, mon beau frère est congolais. Somaliens, sénégalais, sans tâche par milliers à Calais. Les flics me demandent ma carte, les voisins pètent un câble. Je suis présumé coupable, le cauchemar des toupables. Hors de quitter territoire, Manu Militari. Combien en 127 pistes veulent faire Harakiri? Quand médicat souffleur, t'étais au Franken Kiri. Y'a une vraie différence entre l'Ukraine et la Syrie. Wesh, homme à la mer en pleine détresse.
Homme à la mer,
ça joue les aveugles dans la presse.
RFI Midi.
Hello la famille, c'est Juliette Fievé.
RFI Concert.
Attention, RFI vous fait revivre le concert de Tiakola à l'Accor Arena de Paris. Après une tournée qu'il a menée en Afrique, aux États-Unis et en Europe, le prince de l'Afrobeat francophone faisait escale chez lui à Paris, avec sur scène une pléiade d'invités.
Ouais, l'équipe, c'est Tiakola. Je remercie RFI pour nous avoir accompagnés pour le live.
2 heures de concert rien que pour vous. Tiakola à Paris et dans le monde entier. C'est ce vendredi sur RFI à 20h10, temps universel.